Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité.
Après l'intervention de Marcus Weisen, nous accueillons Claire Petit-Mangin, philosophe et professeure émérite à l'Institut Mines Télécom Business School.
Son intervention porte sur la dimension ressentie de l'expérience vécue, une part non remarquée de l'expérience qui semble échapper à notre conscience.
Donc, bonjour à tous. Donc, je suis très très contente de participer au séminaire Sensibilia. Aujourd'hui, je remercie beaucoup Jean-Paul de m'avoir invitée. Et puis, je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé le texte d'introduction, autant sur le fond que sur la manière dont il a été lu. Et je l'ai trouvé vraiment passionnant. Depuis ma thèse, sous la direction de Francisco Varela, qui portait sur l'expérience qui accompagne l'émergence d'une intuition, j'ai consacré mes recherches au développement de méthodes permettant de prendre conscience de moments d'expérience vécue, de les décrire et d'y détecter d'éventuelles régularités structurelles. Et ce travail m'a amené à découvrir que plus nous entrons intimement en contact avec notre expérience, plus les structures qui lui semblent ordinairement essentielles s'évanouissent, d'où le titre un peu étrange de mon exposé. Je vous soumettrai également l'hypothèse selon laquelle la perte de contact avec cette dimension intime, mais paradoxalement inaperçue, même si elle est intime, cette dimension ressentie qui se situe aux franges ou peut-être à la source du phénoménal, pour utiliser une autre métaphore, cette perte de contact est une des raisons du désastre écologique que nous vivons. Donc je m'appuie beaucoup pour cet exposé sur un article que j'ai écrit récemment qui s'appelle « S'ancrer dans l'expérience vécue comme acte de résistance », pour reprendre le mot que Marcus a utilisé plusieurs fois. Alors, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai commencé à essayer de recueillir des descriptions d'expérience et qui n'en finit pas de me surprendre, ça a été de découvrir qu'une grande part de notre expérience vécue nous échappe. Notre expérience la plus immédiate, la plus intime, celle que nous vivons ici et maintenant, nous est aussi la plus étrangère, la plus difficilement accessible. Quelle que soit notre expérience, l'absorption dans le contenu de l'expérience, le quoi, crée un étroit tunnel attentionnel qui occulte l'expérience elle-même, le comment. Par exemple, tout en vous parlant en ce moment, je suis absorbée par le contenu des idées que j'essaye d'exprimer. Mais je ne suis pas pleinement consciente de la succession rapide d'images intérieures, d'émotions légères qui accompagnent mon discours, ni du fil de pensée préverbal sur lequel je m'appuie, ni même des gestes que je fais en parlant, même par Zoom. Qui plus est, je n'ai même pas conscience que quelque chose m'échappe. Toutes nos expériences sont ainsi concernées, des plus concrètes aux plus abstraites. Non seulement nous n'avons qu'une conscience très partielle, mais nous ne sommes pas conscients de ce défaut de conscience. Donc là, c'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel Pierre Vermersch a beaucoup insisté dans ses écrits sur l'explicitation. Et bien au contraire, en fait, nous croyons savoir, c'est-à-dire qu'une représentation de notre expérience se surimpose à ce que nous vivions, à ce que nous vivons effectivement, ce qui contribue à nous en couper. Par exemple, comment nous vient une idée ? Bien qu'il s'agisse d'une expérience heureusement très courante, nous en savons peu de choses. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une idée apparaît, même une idée scientifique ayant des implications très importantes jusque dans notre vie quotidienne, tout l'intérêt se concentre sur le contenu de l'idée et l'exploration de ses conséquences. Mais très peu d'attention est portée à l'expérience de l'émergence de l'idée, au processus qui a permis de la trouver. Et il se trouve que la réduction de l'idée à son contenu, pardon, et la méconnaissance de sa genèse, On pourrait faire de réduire notre compréhension de l'idéation à un mécanisme cognitif désincarné. Nous nous représentons nos idées comme des processus de pensée se déroulant dans un esprit doté de deux caractéristiques principales. D'une part, il est localisé dans la tête et séparé du corps. D'autre part, il est localisé dans un intérieur, séparé de l'extérieur. Alors, le recueil de descriptions minutieuses de l'émergence d'idées, qui est rendu possible aujourd'hui par des méthodes adaptées comme l'entretien d'explicitation ou microphénoménologique, dessine un tout autre tableau. Tout d'abord, cette exploration montre que dans l'expérience d'idéation, la distinction que nous croyons percevoir entre esprit et corps se dissout. Des philosophes péripatéticiens à aujourd'hui, beaucoup de penseurs ont remarqué que le mouvement, la marche par exemple, est propice, voire indispensable à la pensée. Darwin, par exemple, trouvait l'inspiration qui lui a permis de rédiger ses deux ouvrages principaux, L'origine des espèces et L'évolution de l'homme, en parcourant un petit sentier autour de sa maison qu'il appelait son chemin de pensée. En 1881, Thoreau écrivait dans son journal « Il me semble qu'à partir du moment où mes jambes commencent à bouger, ma pensée commence à fuser. » La marche semble propice à la pensée, non seulement parce qu'elle permet de relâcher la crispation sur la question à résoudre, mais parce qu'elle permet de trouver le rythme, le geste qui constitue le germe même de l'idée. Avant qu'une idée ne soit exprimée sous forme verbale, mathématique, picturale ou musicale, elle apparaît sous la forme d'une direction de pensée, d'une ligne de force dont Einstein nous donne un aperçu. Il écrivait « Durant toutes ces années, avant l'émergence de l'idée de la relativité générale, ou pendant l'émergence de cette idée, il y avait un sentiment de direction, d'aller droit vers quelque chose de concret. Il est très difficile, bien sûr, d'exprimer ce sentiment en mots, mais je l'avais dans une sorte de survol, d'une certaine manière, visuellement. » Donc, une idée, c'est d'abord, cette citation, beaucoup d'autres, et les explorations que nous avons menées, une idée, c'est d'abord un mouvement, un rythme, ne relevant pas d'une modalité sensorielle particulière, mais néanmoins subtilement ressenti. Ce rythme se déploie dans un paysage mouvant, doté d'une texture, de contrastes, de densité et d'intensité qui lui sont tout à fait spécifiques à cette idée-là. Et même lorsque l'idée a été exprimée, cette dimension gestuelle et vibrante subsiste sous les mots. Il semble qu'elle constitue la dimension même du sens. C'est l'ancrage dans cette dimension ressentie qui fait une pensée ou une parole vivante, incarnée. Alors, ordinairement, nous nous percevons comme des individus, des sujets nettement séparés des objets extérieurs qui nous entourent et constituent ce que nous appelons notre environnement. Mais l'exploration minutieuse de la dimension de l'expérience où naissent les pensées et où la frontière entre l'esprit et le corps se dissout montre que cette dimension ne se situe pas en nous-mêmes, dans un espace intérieur, individuel, privé, séparé de l'espace extérieur par une frontière rigide. Supposons, par exemple, qu'au cours d'une marche dans la campagne, je vais vous emmener faire un petit tour dans la nature comme Marcus l'a fait. Donc, au détour d'un chemin, je découvre un paysage. Immédiatement, j'en reconnais les éléments, des bouleaux, un ruisseau, que je localise là-bas, à distance de moi-même, dont le point de vue est situé ici, au niveau de mes yeux. Mais il y a une autre manière de regarder. Une attention moins tendue, moins focalisée, me permet de reconnaître des contrastes d'ombre et de lumière dans les feuillages, ou des nuances de vert et de rose dans les reflets sur l'eau, que ma focalisation sur les éléments du paysage m'empêchait de distinguer. Et en adoptant un mode d'attention encore plus ouvert, diffus, réceptif, je peux aussi laisser le paysage venir à moi, me laisser toucher par lui. Au lieu d'aller chercher les objets là-bas, je laisse les couleurs, les formes, les mouvements, les rythmes, les sons venir à moi. Je laisse l'atmosphère, le rythme particulier qui émane du paysage m'imprégner, un peu comme le ferait un parfum ou une musique. Le paysage n'est plus une étendue qui se présente à ma vue comme un beau spectacle. Il n'est plus regardé, mais ressenti. Et ce ressenti dissout la limite entre lui et moi. L'anthropologue Marcel Jousse donne de cette expérience la description suivante. Je sens très bien en moi, dans mon tronc, le fleuve qui coule, ou le peuplier qui se dresse vers le ciel, ou le peuplier qui se balance au bord de la Sarthe quand il fait grand vent. À dire vrai, je ne vois pas s'élancer le peuplier, je ne vois pas couler la rivière. Je sens la rivière qui coule en moi, je sens que le peuplier se dresse. Voici un extrait d'entretien microphénoménologique. Dans ces instants-là, il n'y a plus de barrière entre moi et les choses. C'est comme si je n'avais plus de peau. Par exemple, ce peuplier là-bas, c'est comme si rayonnait de lui quelque chose, un frémissement, une lumière diffuse, un son très léger, très fin, qui vient jusqu'à moi et me touche d'une manière indescriptible. Tout devient incroyablement touchant. C'est comme si l'espace entre les choses devenait plus dense, plus lumineux, plus vibrant, et qu'il n'y avait plus rien d'autre que cet espace. Dans ce type d'expérience, les vibrations de la lumière, le flux et le reflux de l'eau, la texture des arbres et des pierres, le souffle du vent, non, j'ai passé trop vite, ne se brisent pas à la frontière de la peau, mais réunissent intérieur et extérieur en un seul espace ininterrompu. C'est comme si le paysage me traversait. Lui et moi sommes faits de la même étoffe, de la même matière, tendre, sensible, vivante et palpitante, pour laquelle notre langue n'a pas de mots, mais que Merleau-Ponty appelait la chair du monde, et que nous pouvons aussi nommer la dimension ressentie ou la dimension source de l'expérience. Donc, en résumé, lorsqu'en dénouant les tensions qui nous coupent de notre expérience, nous entrons en contact avec elle, nous ne trouvons pas un esprit, un corps et son environnement. Ces mots sont des abstractions, des concepts qui voilent la réalité de ce que nous vivons. Le chant de l'oiseau n'est pas là-bas, dans la gorge de l'oiseau. Il n'est pas non plus ici, en moi. Il résonne dans un espace où la limite entre ici et là-bas n'existe pas. Où le monde et moi se rejoignent, que Rilke appelait l'espace intérieur du monde. Je ne saurais pas, j'ai sous les yeux le terme en allemand, mais je ne saurais pas le prononcer. Merci Marcus. Alors, c'est de cette matière sensible et mouvante où la distinction entre intérieur et extérieur se dissout que semblent faites nos idées. Sous les mots, nos idées sont des rythmes qui prennent leur source dans les mouvements du monde. Ces mouvements sont d'une infinie diversité, comme le montrent certaines langues qui possèdent des dizaines de mots pour désigner un être vivant, en fonction de ses multiples attitudes et actions possibles. Parfois à peine perceptibles, comme la qualité particulière du souffle du vent dans le feuillage juste avant une pluie d'orage, ces mouvements subtils résonnent et s'impriment en nous à chaque instant, à notre insu, particulièrement chez l'enfant, beaucoup plus réceptif que l'adulte. Nos pensées, même celles qui semblent les plus abstraites, sont ensuite le rejet de ces rythmes sous forme microscopique et invisible. C'est en tout cas l'hypothèse que fait Marcel Jousse, l'anthropologue, qui soutient aussi que plus nous laissons résonner en nous ces mouvements pendant l'enfance, plus nous devenons capables de penser finement, de manière personnelle et originale. C'est pourquoi il est indispensable de laisser le petit enfant tout regarder, dit-il, tout toucher, tout casser, tout rejouer, partout. Mouvement de jaillissement, déploiement, balancement, accélération, arrêt. Les gestes qui accompagnent toute expression verbale, souvent à notre insu, semblent être l'expression directe de cette dimension gestuelle invisible dans laquelle la parole prend source et sens. Donc, en résumé, La matière sensitive et sensible dont sont faites nos pensées et où les mots prennent sens n'est pas enfermée à l'intérieur de nous. Elle est l'étoffe même dont est fait le monde. C'est le contact avec cette manière qui nous, à cette matière qui nous donne le sentiment d'exister, qui nous rend vivants. Donc c'est dans cette dimension gestuelle subtile où se joue la pensée que semble aussi se jouer la rencontre entre humains. Donc, comme le montre l'observation attentive des interactions entre mère et nourrisson, le monde du nourrisson n'est pas un monde d'objets, mais de dynamique, de vitalité, comme l'explique Daniel Stern. Le bébé ne perçoit pas le biberon, la couche, mais comment sa mère le prend, prend le biberon, déplie la couche, c'est-à-dire les rythmes de ses gestes, la tonalité qui s'en dégage. Ces rythmes ont la particularité d'être transmodaux, c'est-à-dire transposables d'une modalité sensorielle à l'autre. Et c'est cette transmodalité qui rend possible le mode de communication subtil qui se joue entre la mère et l'enfant, que Daniel Stern appelle l'accordage affectif, affect attunement. D'instant en instant, de manière préréfléchie, la mère et l'enfant accordent leurs rythmes internes. Par exemple, après 6 secondes environ, la mère va répondre par un babillement du bébé, par une caresse de même intensité et de même rythme. Cette synchronisation rythmique qui permet la résonance entre deux univers intérieurs semble être la base de l'intersubjectivité affective. Et les travaux de Stern ont amené à la conclusion que ce monde dynamique et transmodal ne correspond pas à une étape du développement de l'enfant, ensuite abandonnée pour d'autres modes de fonctionnement. Au contraire, ce monde reste à l'âge adulte, celui où se jouent les relations humaines. Sous les interactions verbales et visuelles qui accaparent l'attention, l'atmosphère particulière qui se dégage de l'autre personne, plus perceptible d'ailleurs lors d'une première rencontre, ou après une longue séparation, la manière bien à elle qu'elle a de s'approcher de vous, de se mouvoir, les variations d'intensité de son regard, le rythme et la mélodie de sa voix sur lesquelles vous vous accordez à votre insu, tout cela forme la texture même de la rencontre. Et les recherches de Stern l'ont amené à la conclusion qu'au-delà de la rencontre entre humains, cette strate silencieuse nous accompagne constamment. Elle est l'étoffe même de nos ressentis, de nos pensées, de nos actes. En résumé, les expériences essentielles à nos vies, penser, parler, rencontrer le monde et les autres humains, semblent se dérouler dans une dimension de l'expérience où la séparation entre les cinq sens, entre le corps et l'esprit, et entre espace intérieur et extérieur, est perméable ou absente. Pourquoi tenons-nous à ces séparations? Et pourquoi ne reconnaissons-nous pas la dimension ressentie, au point que nous n'avons même pas de mots pour la nommer? Donc l'exploration de cette dimension m'amène à faire l'hypothèse suivante. Si nous sommes coupés de cette dimension, qui est pourtant l'étoffe même de notre expérience, c'est que nous nous en coupons par un processus de rigidification qu'il est possible de reconnaître et de décrire. D'instant en instant, nous dépensons une énergie considérable pour essayer d'identifier dans la mouvance du monde des formes fixes, des objets dont on puisse dire ceci. Car cette seule condition, pardon, que nous pouvons nous penser comme des individus et dire je. Par exemple, lorsqu'un son se produit, en une fraction de seconde, il est reconnu comme le chant d'un merle là-bas dans le prunier. Dans la même fraction de seconde, je viens au monde. D'instant en instant, des micro-tensions créent des objets extérieurs, séparés d'un espace intérieur par une frontière rigide qui me donne un sentiment d'existence, dépendant de l'existence de ces objets. Et plus cette frontière se rigidifie, plus les objets deviennent solides et plus mon existence se confirme. Et cette confirmation mutuelle qui naît dans les événements perceptifs, se poursuit inlassablement dans toutes les strates de l'expérience. Ce processus, c'est mon hypothèse, est une question de survie. Toute notre attention est accaparée par les objets dont nous nous efforçons de préserver la solidité pour essayer de maintenir notre propre sentiment d'exister. Car lorsque nous perdons quelque chose, quelqu'un, c'est notre propre identité que nous perdons. C'est un effort épuisant, impossible de se laisser aller. Il faut faire tenir le monde. Et cette tension incessante pour maîtriser, pour essayer de maintenir nos frontières, cloisonne, rigidifie et aboutit à la crispation et à la douleur. En effet, le cloisonnement entre un espace intérieur et un espace extérieur a pour effet de les priver tous deux de vie, de les désanimer. Dans notre société occidentale, nous nous représentons l'espace extérieur, l'environnement non humain, comme un espace géométrique uniforme, indifférent et inerte. Nous percevons la nature comme un système d'objets distincts et distants de nous, destinés à être possédés et exploités. Dans le meilleur des cas, comme un lieu de loisirs sportifs ou de promenades bucoliques, dont les études scientifiques s'efforcent aujourd'hui de quantifier les bienfaits. Séparée des forêts qui la nourrissent, mesurée en termes de superficie et de rendement, la terre s'épuise. En arpentant un champ désolé, comme ceux qui entourent l'endroit où j'habite, où les insectes et les oiseaux se sont tus, nous pouvons ressentir en nous l'étiolement de ces dynamiques de vitalité. Nous-mêmes, nous avons perdu contact avec la chair du monde, la source de la vie et du sens. Coupés de ces rythmes subtils, nous nous vidons de notre énergie vitale. L'impact nocif de la coupure avec la source de l'expérience se vérifie dans de nombreux autres domaines, comme celui de l'enseignement. Celui-ci est essentiellement conçu comme la transmission de quantités massives, de contenus discursifs de connaissances, non comme connexion à leur source vivante. Pour cela, il impose l'immobilité à l'enfant comme à l'adulte, limitant leurs gestes au mouvement de leurs yeux pour lire et de leurs doigts pour écrire. Le développement de la capacité à laisser émerger de nouvelles idées, à penser de manière autonome, supposerait au contraire de familiariser les apprenants avec la dimension non-verbale et gestuelle, où les idées prennent source et sens, actuellement presque complètement occultées. Pour beaucoup d'enfants, la scolarité est un long chemin d'abnégation et de désincarnation. Elle est l'apprentissage douloureux des tensions et crispations permettant d'ériger et de maintenir une cloison rigide entre esprit et corps, qui du coup perdent peu à peu leur sensibilité, s'étiolent et meurent, à moins que l'enfant ne s'y refuse et ne se retrouve exclu du système sombre système scolaire. Bon. Donc, coupé de la dimension ressentie, notre expérience, perdant la capacité à penser de manière autonome, créative, nous perdons notre dignité même. Notre vie se réduit bien souvent à la quête épuisante et compulsive de confirmation de notre existence par l'acquisition d'objets, qui mène à l'impasse et au désastre écologique que nous connaissons. Car plus nous nous affaiblissons, plus nous essayons de nous remplir par une consommation frénétique, et plus nous épuisons la terre. Pour maintenir cette famine expérientielle, comme l'écrit Andy Fisher, le fondateur de l'écopsychologie, est une condition indispensable au fonctionnement du système économique actuel. En d'autres termes, la rupture avec le cœur vivant ressenti de notre expérience est aussi la condition même de survie de notre système économique qui s'ingénie à l'entretenir. Dans cette hypothèse, qui est celle de l'écopsychologie, misère expérientielle et ravage écologique sont les deux faces d'une même pièce. Si la racine commune de notre épuisement et de celui de la Terre réside dans les tensions qui nous coupent de la source de notre expérience vécue, la condition essentielle pour s'extraire des problèmes écologiques inextricables désespérée que nous rencontrons aujourd'hui et de retrouver le contact avec cette source. Les statistiques les plus accablantes, les démonstrations les plus convaincantes des effets délétères de notre vie, de notre mode de vie sur le monde, resteront sans pouvoir tant que nous ne nous donnerons pas les moyens de reconnaître en nous cette source et de penser et agir à partir de là. Sur le plan personnel, il s'agit de retrouver le contact avec ce qui vibre et vit en nous, la dimension ressentie de notre expérience, aux franges ou à la source du phénoménal, afin de retrouver notre unité, notre intégrité. Seul ce contact peut nous libérer du besoin compulsif d'acquérir des objets, qu'ils soient matériels ou immatériels, pour confirmer à nos yeux notre propre existence et nous rendre capables de vivre de manière plus sobre, plus digne. Ce contact est essentiel pour nous donner la lucidité et la détermination nécessaires pour, d'un côté, identifier et désinvestir ce qui encombre, fige et épuise nos vies, et de l'autre côté, reconnaître ce qui nourrit la vie, ce qui lui donne sens, ce pourquoi nous serions prêts à donner la nôtre et choisir de privilégier cela. L'enjeu pour notre société aujourd'hui est de développer des approches qui, dans toutes les activités essentielles à notre vie, nous donnent accès à la dimension ressentie, sensible, et nous permettent d'identifier les attitudes intérieures, les pratiques et les contextes qui nous en coupent ou au contraire qui nous y ancrent. Il s'agit en premier lieu d'abandonner l'attitude réifiante et prédatrice qui transforme toute activité en objet de consommation. La santé en traitements médicaux, l'éducation en consommation de savoir, les loisirs en spectacles et jeux tout prêts. Imaginons une école qui, au lieu de gaver les enfants de contenus de connaissances prêts à consommer, leur permette, au contact des mouvements du monde, d'entrer en contact avec la source vivante des idées et du sens, et de développer une pensée libre et créative. Imaginons une médecine qui, au lieu de déposséder les humains de leur corps en le considérant comme un objet mesurable, prenne soin du corps vécu, du corps sensible, comme le suggérait Marcus. La thérapie non pharmacologique de l'épilepsie, qui encourage les patients à reconnaître les indices corporels subtils annonçant une crise afin de pouvoir s'en protéger ou de pouvoir adopter des contre-mesures pour arrêter la crise, est un exemple frappant d'une telle approche thérapeutique qui pourrait être étendue à de nombreuses autres maladies. Imaginons une agriculture respectueuse, attentive, patiente, où les plantes, les arbres, la terre et l'eau sont reconnus comme des êtres vivants, différents de nous, mais des êtres, faits de la même texture que nous, envers lesquels nous sommes reconnaissants et dont nous voulons prendre soin. Imaginons des villes, des maisons, qui nous enveloppent de leur dynamique de vitalité et suscitent en nous la réceptivité et la confiance qui nous permettent de nous imprégner. Imaginons une science à la fois précise et rigoureuse, mais lente et douce, intégrant une étude méticuleuse de l'expérience vécue et donnant aux chercheurs le temps d'être en contact avec la leur. Ces mutations supposent le passage d'une représentation conceptuelle et abstraite des processus de création et transmission de sens, de la maladie, de la guérison et de la fin de vie, du soin des arbres, des oiseaux, des abeilles et des rivières, à une compréhension qui soit ancrée dans la dimension ressentie. Donc, en conclusion, qu'il s'agisse de prendre soin des autres ou de cultiver la terre, de faire de la recherche ou de construire des maisons, entrer en contact intime avec sa propre expérience ressentie, sensible, est un acte de libération et de résistance. Au sein de toutes les activités humaines, il est urgent de créer, entre les mailles du tissu serré des règles, des contraintes et des horaires tendus qui empêchent ce contact, des espaces de résistance, des espaces où, ensemble, nous nous autorisons à ralentir, à respirer, à écouter la dimension sensible qui anime nos vies et à en laisser émerger de nouvelles visions, de nouvelles histoires, à imaginer de nouvelles façons de faire, démontrant ici et maintenant qu'elles sont possibles. Alors, je vous remercie pour votre attention et je serai heureuse de recevoir vos commentaires, vos éventuelles questions et d'engager une discussion.
Merci beaucoup pour votre intervention qui résonne beaucoup avec celle de Marcus et qui nous donne un cadre extrêmement intéressant. Moi, j'aurais juste deux remarques. La première, c'est qu'on retrouve en fait des éléments qui ont été déjà discutés lors du premier séminaire sur la dimension rythmique de l'expérience, qu'avait souligné en particulier François Laplantine, qui lui aussi développe ce qu'il appelle une anthropologie modale, qui essaye de se situer à un niveau infrasémiotique, au sens où voilà, il remet en cause, disons, l'idée d'une pensée par signe discret pour réintroduire de la continuité du rythmique dans l'expérience et la pensée. Donc c'est juste voilà, une petite remarque que j'avais pour dire qu'il y avait déjà eu
S'il vous plaît, vous pouvez juste redire le nom
Oui, c'est
de...
François Laplantine, qui est anthropologue et qui a écrit de très très nombreux ouvrages, dont un en particulier qui s'appelle Le sensible et le social, qui développe une anthropologie modale et sur laquelle il met en avant la dimension rythmique de façon très très forte. J'avais juste une question ou un élément de discussion que je me pose moi-même et qui, je pense, est un élément aussi de discussion générale du séminaire Sensibilia. J'ai l'impression, et je réfléchis à vôtre, que ce qu'on essaye d'avancer, de développer, c'est cette idée-là d'une transformation de notre rapport au monde qui engage davantage des éléments qui sont de l'ordre de l'unité, voire de la fusion. Alors c'est une question. Moi, je pensais à un psychopathologue qui s'appelle Eugène Minkowski, qui est un défenseur de la psychologie existentielle, qui, pour étudier des cas cliniques, nous dit que, en fait, notre rapport au monde, de façon très très schématique, se divise en deux polarités. Une qui est celle de ce qu'il appelle la syntonie, qui renverrait plutôt, j'ai l'impression, du côté de ce que vous proposez ou de ce dont Marcus a parlé, c'est-à-dire une tentative de réunification de l'expérience en fait au monde, et puis ce qu'il appelle aussi une autre polarité qui est de l'ordre de la schizoïdie, c'est-à-dire d'une coupure au monde, ou d'une mise à distance, ou d'une nécessité nécessaire maîtrise. Minkowski nous dit, en fait, quand on regarde les cas pathologiques, on s'aperçoit qu'on peut les analyser par un défaut d'équilibre entre ces deux rapports au monde. C'est-à-dire que si on est trop coupé du monde, évidemment, il y a problème. On pense bien sûr à la schizophrénie ou des pathologies comme ça, mais si on est trop immergé ou fusionnel, on est aussi dans des situations qui sont problématiques du point de vue du bien-être. Donc, lui défendait l'idée à l'époque de ce nécessaire équilibre entre un rapport schizoïdique et un rapport syntonique au monde. Et voilà, donc moi, la question que j'avais, c'était est-ce que du coup, on a peut-être une question qui se pose derrière sa pensée, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin d'une enveloppe protectrice par rapport à l'environnement ou par rapport au monde ou au milieu dans lequel on baigne? Et est-ce que d'aller trop loin dans un mouvement, disons, d'unification, d'unité ou de fusion peut pas être aussi problématique, quoi. Voilà. C'est un élément de discussion générale.
Oui, alors c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une discussion approfondie sur cette question. Alors personnellement, moi, mes explorations de cette dimension où la séparation entre intérieur et extérieur s'adoucit, ou même s'évanouit, m'aboutit à penser que c'est une dimension extrêmement confortable. Alors, la douleur, elle vient constamment de cette rigidification des frontières. Et ce que, pour ma part, alors dans mon expérience, ce que je découvre, c'est que lorsqu'elle s'adoucit, c'est une douleur qui disparaît. C'est incroyablement confortable, en fait. Je trouve pas d'autres mots. C'est un soulagement. Et on peut vivre là. On peut vivre là, vraiment. Alors, faudrait. Alors, aussi, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que quand je dis cette séparation, en fait, j'ai l'impression que Minkowski, d'après ce que j'avais déjà lu deux ou trois choses qu'il avait écrites, il part de la. D'une hypothèse que cette séparation est réelle. Alors, voilà. Il y a une séparation, alors soit on vit dans la séparation, soit on adoucit les frontières. Mais il y a toujours l'idée qu'il y a un monde intérieur et un monde extérieur qui sous-tend un peu, qui sont là. Et puis il y a différentes manières de se rapporter à ce monde. Et en fait, l'hypothèse que je soutiens, c'est que c'est nous qui créons cette séparation. Enfin, cette séparation est créée. Il n'est pas là, le monde. Il n'y a pas un monde intérieur et un monde extérieur. Donc, c'est un petit peu différent, quoi. C'est comme vision de la réalité. Donc, voilà, je voulais...
Je vais peut-être enchaîner. Je pense qu'il y a un lien tout à fait parce que par rapport à la fin de votre présentation, vous avez parlé, appelé pour que l'expérience vécue ait une place plus importante en science. Et par rapport à la thématique du séminaire, qui sont les limites du phénoménal, je me demande jusqu'où on peut aller dans cette assertion parce que. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont étudiés par la science et qui sont justement, par exemple, ce que j'appelle une phénoménalité différée. La radioactivité, par exemple, on ne va pas l'apercevoir par nos sens, mais par contre, ça va avoir un impact sur nos corps qui sera différé de quelques heures, quelques années, ou la génétique, les chercheurs qui travaillent en génétique, peuvent-ils se référer à leurs expériences sensibles, puisque de la même façon, il y a des grandes distances temporelles entre, et en plus un aspect très, de l'ordre de l'invisible, etc., de l'imperceptible. Et dans cette idée de réunification, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut... aller quand on est justement dans l'ordre de ces éléments qui ne passent pas par nos perceptions directes et qui au contraire s'appuient beaucoup sur des constructions intellectuelles. Et nous savons que la radioactivité existe et nous avons inventé des outils qui nous permettent de savoir qu'elle est présente. Et donc nous savons que dans certaines circonstances, nous avons intérêt à être équipés avec ces outils qui vont faire des bip-bip, qui vont transformer de la phénoménale en phénoménale pour nous prévenir que nous sommes dans une situation de danger, par exemple. Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut être dans la syntonie? Est-ce que ce n'est pas aussi oublier que nous sommes aussi des êtres de pensée aussi et de raison et que nous pouvons nous appuyer sur un certain nombre de savoirs que nous avons construits collectivement? Voilà ma question.
C'est vraiment intéressant, mais je ne sais pas comment répondre à cette question. Parce que, bon, c'est vrai, il y a deux formes d'invisible. Alors, l'invisible qui est construit, enfin, découvert ou construit par la science, enfin. Et puis, l'invisible de nos... qui nous est directement... enfin, qui est l'invisible de notre expérience. Et là, comment faire un lien entre les deux? Je ne sais pas, je n'ai pas trop réfléchi à la question, j'avoue. C'était vraiment intéressant, mais je dirais. Voilà. c'est ce que ce que j'essaie d'explorer pour l'instant, c'est vraiment l'invisible qui nous crève les yeux. C'est moins qu'on le voit. Mais qui est expérientiel. Et après, je ne sais pas. Enfin, je ne peux pas répondre à votre question qui est très intéressante.
Si ça marche. Juste en quelques mots par rapport aux réflexions qui ont été faites, je ne sais pas si vous connaissez Jill Bolt Taylor, qui est une chercheuse en sciences cognitives, qui en 2008 a fait une conférence TED sur l'expérience qu'elle a faite de son propre AVC. Pendant son AVC, elle a donc fait un AVC du lobe droit, non gauche. Et donc elle a témoigné de qu'est-ce que a été son expérience de vivre qu'avec la moitié de son cerveau, et pour le coup la fusion instantanée qu'elle a faite avec tout son environnement. Elle était sous la douche, et donc elle parle des sensations qu'elle a eues avec l'eau, le carrelage, etc., jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Etc. Oui, voilà. Donc, d'où peut-être un témoignage qui permet aussi de comprendre le rôle de chaque partie du cerveau dans le fait de créer les limites et qu'est-ce qui se produit si elles disparaissent. Jill, J-I-2-L, plus loin Bolt, B-O-L-T-E, et plus loin Taylor.
Il a une présentation sur les TEDx. Ouais. Ça doit faire 10 ans, mais c'est magnifique. Mais je voulais juste ajouter à cette discussion que Suzelle a entamée, que entre d'une manière la théorisation de la phénoménale à la Einstein et la relativité, il a aussi en fait toutes ces questions du laboratoire dans le sens anglais, dans le sens de William James que Thibault va nous parler demain, qui est autour de ces questions d'une sensibilité différée et médiée, et qu'on ne peut pas faire une coupure nette en fait entre ce monde phénoménal et le monde des sciences, le réel qui est le réel en soi, et qu'en fait tous ces dispositifs du laboratoire, que ça soit William James et ce laboratoire qui essayait de capter la présence des esprits, des fantômes, des revenants, ou que ça soit Marie Curie qui essayait de faire sens en fait de ce qui se montrait de manière différée, de manière complètement confuse sur le banc du laboratoire, qu'en fait si on prend surtout tout ce travail empirique, expérientiel, là, on retombe pas nécessairement dans ces divisions entre une expérience vécue, subjectif, et puis des savoirs objectifs qui renvoient à des phénomènes elles-mêmes. Quoi. Non, je sais. Ouais. Mais c'était juste pour ramener l'attention en fait, aux bandes de laboratoire aussi, et que tous nos dispositifs, que le Geiger counter, c'est aussi une sorte de forme de sensibilité différée, en fait, et qui prend, j'imagine, j'ai jamais utilisé, mais il doit avoir tout un apprentissage, en fait, de l'utiliser. C'est pas quelque chose qui est juste évident comme ça.
Merci. Ce débat-là, et je trouve extrêmement intéressant, il me rappelle une expérience au long cours dans laquelle j'ai été mise, où on m'a commandé de faire une sculpture sur les déchets nucléaires. Et l'entretien avec le haut fonctionnaire en charge du CEA a lieu, où on va discuter de cette commande. Et on s'aperçoit tous les deux au cours de cet échange que, en fait, moi, je ne suis pas un artiste qui produit des objets, mais qui est très intéressé par le processus de création ou la recherche, etc. Donc, il modifie un peu son idée de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Et moi, je me rends compte au cours de l'échange que j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est qu'un déchet nucléaire. J'ai un déficit d'expérience, mais alors total. Je vois que j'ai que des a priori dessus, basés sur des films, des infos que j'ai, mais rien. Et on se met d'accord qu'on va oublier la question de la production de l'œuvre d'art et que moi, je vais oublier mes a priori sur ce sujet ou ce réel que je ne connais pas. Et il m'a demandé de passer 6 mois à faire l'expérience des différents sites dans lesquels sont stockés, entreposés, où on fait de la recherche sur les déchets nucléaires. Et il en est venu un truc qu'on a produit, qui était une approche plastique ou sensible des déchets nucléaires. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce qu'on était constamment dans cette espèce de... comment est-ce que le sensible, l'expérience sensible, modifie la relation à ce réel qui est tout le temps expliqué par des informations et des signaux perceptibles plutôt par des outils scientifiques. Et je m'interrogeais du coup sur cette cohabitation justement entre ces deux systèmes tout à fait réels. Il n'y en a pas un qui est faux et l'autre vrai, mais comment ça cohabite ces deux choses-là ?
On laisse le silence prendre place. Ok. Merci beaucoup. Merci Claire.